Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est 19h sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Dans un instant, le retour des débats de Punchline. Mais tout de suite, c'est le journal avec Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Premier discours de Joe Biden à l'ONU cet après-midi, après les années Trump et sur fond de crise des sous-marins avec la France.
Le traumatisme toujours à vif à Toulouse. 20 ans après l'explosion de l'usine AZF, nous irons sur place pour cette journée de commémoration.
Le pass sanitaire d'Emmanuel Macron a fuité sur les réseaux sociaux. Nous essaierons de comprendre comment un tel incident a pu se produire.
Une grande avancée pour la chirurgie cardiaque. L'entreprise française Carmat a réalisé la toute première implantation de son cœur artificiel chez une femme. La tendance météo, Marlène Duret.
Alors, moins d'humidité dans l'air. Demain, le soleil va pouvoir s'imposer bien plus qu'aujourd'hui. Des précisions à la fin de ce journal.
Europe 1.
Joe Biden a donc prononcé son premier discours à l'ONU en pleine crise des sous-marins avec la France.
Le président américain s'exprimait à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies qui vient de s'ouvrir. Pas de message direct pour la France dans la crise des sous-marins, mais des allusions. Joe Biden a mis l'accent sur le rôle crucial des alliances pour les États-Unis, Alexis Guilleux.
Oui, c'est un thème fétiche de Joe Biden depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la reconstruction des alliances, mise à mal ces dernières semaines après la débâcle en Afghanistan et la crise actuelle avec la France. Mais Joe Biden l'a répété devant les Nations Unies, il veut travailler avec les alliés de l'Amérique, y compris dans l'Indo-Pacifique.
Alors que les États-Unis tournent leur attention vers d'autres régions du monde, comme l'Indo-Pacifique, nous le ferons avec nos alliés et nos partenaires. C'est une vérité fondamentale du XXIe siècle. Notre propre succès est lié à celui des autres.
Alors, sans citer la France, Joe Biden rappelle que les alliances sont essentielles pour la sécurité et la prospérité de l'Amérique. Les États-Unis ont mis fin à la guerre en Afghanistan et c'est désormais une ère de diplomatie qui s'ouvre sur le président américain. Notre puissance militaire doit être utilisée en dernier recours. Pour autant, pas question d'un repli sur soi pour Joe Biden.
Les États-Unis seront compétitifs et le seront vigoureusement. Nous défendrons nos alliés et nos amis. Mais nous ne recherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs.
Une allusion claire à la rivalité avec la Chine. Un peu plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l'ONU a appelé les deux premières puissances mondiales au dialogue, alors que le monde est déjà, selon ses mots, au bord du gouffre.
Alexis Guilleux à New York pour Europe 1.
Et Nicolas Sarkozy a réagi à la crise des sous-marins.
Oui, l'ancien président a dédicacé son dernier livre cet après-midi dans une librairie de Neuilly-sur-Seine. Promenade sera publiée demain. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy apporte son soutien à Emmanuel Macron.
Moi, je trouve que le président Macron a eu raison de réagir fermement. Entre alliés, ça ne se fait pas. C'est inadmissible. Quand on est amis, ça donne des droits et ça crée des devoirs. Et agir comme cela, ce n'est pas admissible. Il faut en tirer les conséquences.
Nicolas Sarkozy au micro d'Alexandre Chauveau. Il faudra en tirer les conséquences, dit l'ancien président. Emmanuel Macron reste jusqu'ici silencieux dans la crise des sous-marins, mais un conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Élysée. La France prépare la riposte, Louis Dragnel.
Oui, absolument, et ça s'est matérialisé, vous l'avez dit, par l'organisation de ce conseil de défense à l'Élysée ce matin. Et puis, quelques heures plus tard, le ministère des Armées a révélé, tenez-vous bien, que le jour même de l'annulation du contrat, un document signé et tamponné par l'Australie indiquait sa satisfaction sur l'avancée du programme et donc son accord pour le poursuivre. En clair, le gouvernement veut montrer que les services français n'ont pas fauté et que la France est bel et bien victime d'une duperie, d'une tromperie des Australiens et des Américains. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est donc la riposte. Plusieurs pistes sont sur la table. Une sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN, une mesure vraiment symbolique. Surtout, il faut se souvenir quand même de ce qu'en disait Emmanuel Macron il y a quelques mois. L'OTAN est en état de mort cérébrale. Autre levier, négocier d'importantes pénalités de compensation. Mais la possibilité, l'hypothèse qui circule le plus, c'est la renégociation ou la rupture du contrat de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. Ce qu'il faut bien comprendre, outre le fait qu'Emmanuel Macron attend de téléphoner à Joe Biden avant de s'exprimer, le silence du chef de l'État s'explique surtout aussi parce que, en ce moment même, la diplomatie française se mobilise à tout va pour convaincre les capitales européennes pour essayer d'obtenir leur soutien sur ce sujet d'accord de libre-échange avec l'Australie, ce qui permettrait aussi de montrer une Europe politique. Mais je peux vous dire que c'est un combat qui est loin d'être gagné pour le moment.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, alors que l'ancien Premier ministre australien critique la décision de l'Australie d'annuler l'achat de sous-marins français, Kevin Rudd avait signé cet accord avec Paris. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, il estime que la volte-face de son pays va aggraver les tensions en Asie du Sud-Est.
Le traumatisme toujours présent 20 ans après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse.
L'explosion avait fait 31 morts, 2500 blessés, des dizaines de milliers de personnes avaient été privées de logement. À Toulouse, chacun se souvient de ce qu'il faisait le 20 septembre 2001 à 10h17. C'était ce matin le cœur de la commémoration que vous avez suivi, Benjamin Péter. Sur place, la douleur est encore très vive.
Oui, et ce qui frappe, c'est que les gens qui l'ont vécu continuent d'en parler comme si c'était hier, même 20 ans après. Alors à 10h17 précise, les sirènes d'alerte ont retenti, les noms des 31 victimes ont été égrenés avant que l'assemblée réunie autour du mémorial AZF ne respecte une minute de silence. France, dont le père avait été grièvement blessé, est venu très ému déposer une gerbe devant le monument.
Toute la baie vitrée avait explosé. Il a eu les doigts arrachés, enfin les genoux, tout. Il a été très blessé. Et puis, quelques mois après, il a traîné, il a souffert. Il est décédé. Quand j'ai déposé la gerbe, j'ai dit « Tu me vois là-haut, hein, tu me vois. »
Pour le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, l'ampleur de la catastrophe est telle que même 20 ans après, la douleur est toujours aussi vive ici.
Le drame a été terrible. Quand vous avez 31 morts, quand vous avez toute une usine qui est détruite, beaucoup de blessés. On a beaucoup vu à travers les images les dégâts matériels. Ils ont été pour la quasi-totalité surmontée. Par contre, les dégâts humains, ils sont là. Et donc, je crois qu'il ne peut pas en être autrement. Que tout ça soit vif, même 20 ans après.
Et comme chaque année, cette commémoration s'est déroulée en ordre dispersé, puisque deux autres cérémonies avaient lieu au même moment. Des victimes au rond-point du 21 septembre, à quelques centaines de mètres de là, et sur le site, des anciens salariés d'AZF qui se sont retrouvés quelques minutes plus tôt.
Benjamin Péter à Toulouse, 20 ans après l'explosion de l'usine AZF, le 21 septembre 2001.
Le pass sanitaire d'Emmanuel Macron circule donc sur les réseaux sociaux depuis hier soir, Alexandre.
L'Élysée a confirmé à Europe 1 le caractère authentique de ce QR code, ce qui pose la question de la sécurité des données quand la personne la mieux protégée de France n'est pas à l'abri d'un piratage. Alors, comment une telle fuite a-t-elle pu se produire, Jacques Soret ?
Eh bien, d'après l'Élysée, ce sont des professionnels de santé qui sont à l'origine de cette fuite. Depuis le début du mois de septembre, les soignants peuvent avoir accès aux données médicales de tous les Français vaccinés via un système informatique centralisé et certains ont consulter le dossier vaccinal du président. Ils ont fait circuler ces données, soit par négligence, soit par malversation, explique un conseiller du chef de l'État. Résultat, le QR code d'Emmanuel Macron s'est retrouvé en ligne sur les réseaux sociaux hier soir. Alors l'Élysée dénonce une faute déontologique et dès cet après-midi, la Caisse nationale d'assurance maladie a saisi le Conseil national de l'ordre des médecins en vue d'éventuelles sanctions pour le ou les professionnels à l'origine de la fuite. En attendant, Emmanuel Macron va recevoir un nouveau QR code, comme pour Jean Castex, dont le pass sanitaire a lui aussi fuité hier, mais pour le Premier ministre, c'était à cause d'une photo publiée par une agence de presse. L'Élysée annonce ce soir que des dispositions particulières vont être mises en place pour rendre inactif leur précédent QR code.
Merci Jacques Soret.
Restez avec nous dans un instant, un reportage dans la plateforme d'écoute téléphonique des victimes d'inceste. La ligne a été ouverte ce matin et reçoit déjà des centaines de témoignages. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans le journal de 19h. Depuis ce matin, Alexandre Lemaire, les victimes d'inceste peuvent appeler un numéro vert et la ligne est prise d'assaut.
La plateforme a reçu des centaines d'appels en quelques heures au 0805 802 804. Si vous avez été victime de violences sexuelles dans l'enfance, vous serez écouté et orienté si vous avez besoin d'aide. Virginie Riva.
Oui, une personne au bout du fil dit avoir attendu cet appel toute sa vie. Ce sont majoritairement des femmes au-dessus de 50 ans qui appellent. Les conversations sont longues. Élodie, écoutante, accompagne la libération de la parole de cette femme.
Ce que vous m'expliquez, c'est qu'effectivement, enfant, vous avez eu ce courage de révéler ces violences et qu'il n'y a aucun adulte qui vous a protégé concrètement.
Des téléphones qui n'arrêtent pas de sonner, laissant peu de répit à des écoutantes éprouvées par le récit de ces vies brisées. Emmanuelle Pied, présidente du collectif féministe contre le viol qui accueille la plateforme téléphonique.
Les écoutantes raccrochent pour décrocher et il y a des tas d'appels non aboutis. Donc si ça n'a pas abouti ce matin, elle rappelle cet après-midi ou demain et ça finira par aboutir.
Partir de la parole des victimes pour mettre la société face à ses responsabilités, c'est la stratégie choisie par Édouard Durand, magistrat et coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
C'est aujourd'hui, dans ce lieu, que va émerger de façon très puissante dans la société une stratégie de protection des enfants.
La plateforme téléphonique doit durer 2 ans, le temps pour la commission de rendre ses recommandations.
Un reportage Virginie Riva, on rappelle ce numéro d'écoute pour les victimes d'inceste, 0805 802 804 ou pour l'outre-mer, 0800 100 811.
Carmat implante pour la première fois son cœur artificiel chez une femme.
C'est une prouesse technique qui était jusqu'ici impossible en raison des différences morphologiques entre les femmes et les hommes. La première receveuse est une Américaine de 57 ans. Stéphane Pia était à midi sur Europe 1 pour annoncer cette première. Le directeur général de Carmat qui explique pourquoi il s'agit d'un tour de force.
Les femmes en général sont un peu plus basses que les hommes, la cage thoracique est un peu moins grande. Et si vous voulez, quand on commence des implantations de faisabilité comme une prothèse Carmat, la peur toujours c'est de ne pas pouvoir refermer le thorax. Donc il y a des années, bien avant que j'arrive, en 2013 avec le premier patient, on était très conservateur. On voulait une distance rachisternum très élevée. Au fur et à mesure, sur les hommes, avec un H masculin, on a réduit cette distance. Et avec la femme, maintenant, on a démontré que le dispositif, il peut aller très bien dans la plupart des hommes
donc
masculins.
Donc là, on est vraiment sur une
et des femmes,
prouesse. C'est-à-dire que vous venez de prouver que tout le monde peut finalement avoir, ou
la
quasiment...
La majeure partie des adultes.
Voilà, la majorité des adultes, hommes et femmes, peuvent désormais recevoir un cœur artificiel. Stéphane Pierre répondait à Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil dans La France Bouge, ce midi sur Europe 1.
Faut-il équiper les arbitres de Ligue 1 de micros comme en rugby, Alexandre ?
Jean-Michel Aulas milite en tout cas pour cette solution. Pour le président de l'Olympique Lyonnais, ce serait aller vers plus de transparence dans l'arbitrage des matchs, Cédric Chasseur.
Oui, on entendrait ainsi les conversations entre les arbitres et les joueurs sur le terrain, mais aussi les discussions entre l'arbitre central et le VAR, le centre de vidéo-arbitrage, sur des actions litigieuses comme le pénalty de Neymar accordé au PSG dimanche, à l'origine de la colère de Jean-Michel Aulas. Poser des micros sur les arbitres, les principaux concernés sont pour, à une large majorité. C'est en tout cas ce que dit le syndicat SAFE qui représente les arbitres pro, son président Olivier Lamar.
Les arbitres, eux, pensent que non seulement ils n'ont rien à cacher, que tout pourrait être entendu, mais qu'aussi cela pourrait les protéger, puisque tout acteur, tout joueur, tout entraîneur, toute personne qui viendrait près d'un arbitre saurait à ce moment-là que tout ce qu'il va dire est entendu de tous, ce qui peut aussi protéger les arbitres.
Et le meilleur exemple, c'est le rugby, où les téléspectateurs peuvent entendre les conversations des arbitres depuis plusieurs années déjà. En football, une expérience a été menée dans deux départements sur des matchs dits difficiles. Là, les arbitres ont été équipés de GoPro. Le bilan était très positif, me disait Olivier Lamar, président de SAFE, puisque cela avait au moins permis de restaurer l'autorité de l'arbitre.
Merci Cédric. Une tuile pour le PSG en Ligue 1. Lionel Messi touché au genou gauche, il ne pourra pas jouer à Metz demain soir pour la 7e journée. Messi qui était sorti à un quart d'heure de la fin du match remporté dimanche dernier contre Lyon. Le temps pour demain, Marlène Duret, on se dirige vers une belle journée.
Oui, on est quand même plus optimiste pour la journée de demain. Quelques brouillards évidemment au lever du jour dans les vallées comme bien souvent. Ensuite ça se dégage et puis dans l'après-midi on a un flux de nord qui va nous ramener des nuages bas, des stratus, bref, de la grisaille depuis l'Angleterre vers les côtes nord-bretonnes et depuis la Scandinavie vers le littoral du Nord-Pas-de-Calais, ça s'accroche comme ça, c'est-à-dire que sur les plages de Calais ou de Dunkerque, il fera pas beau, mais à quelques kilomètres de là, ce sera du beau temps. Et puisque je parle de la Scandinavie, on est en marge d'une perturbation. On a un petit voile nuageux qui va glisser sur les régions du Grand Est, l'Île-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France. Bon, a priori, le temps devrait quand même rester lumineux et pour être tout à fait complète, le ciel variable va se mettre en place sur les Pyrénées qui ont vu apparaître la neige aujourd'hui. Un léger saupoudrage, mais suffisant pour blanchir les sols vers 2200 mètres d'altitude. Les températures, il va faire un petit peu frais dans les régions situées au nord de la Loire, 4 degrés attendus au pays de la Nougatine à Nevers, demain à Reims, 5 dans l'Orne à Alençon, 5 degrés également à Mulhouse. Et puis dans l'après-midi, elles sont plutôt de saison. On prévoit généralement 20 à 25, donc dans la plupart du pays, jusqu'à 25, 28 près de la Grande Bleue. On notera par exemple 20, 21 degrés en Alsace, en Lorraine, en région lilloise, 23 à Paris, à Poitiers, à Montélimar, 25 dans le Bordelais, 26 à Antibes et 28 à Ajaccio.
Merci Marlène, on mettra un petit pull demain matin quand
au nord de la
Loire. Très tôt. Merci beaucoup à vous, Alexandre Lemaire. On vous retrouve à 20h pour l'info sur Europe 1. Nous, on se retrouve dans un instant pour les débats de Punchline. On reviendra sur le soutien de Nicolas Sarkozy au président Macron sur la crise des sous-marins avec l'Australie. À tout de suite.